Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
On l'attendait, il est là. Bonjour André Desplechin.
Bonjour Marc.
Et vous serez en salle, si j'ose dire, avec votre film dès ce mercredi. Et vous ouvrez aujourd'hui, vous êtes présenté aujourd'hui, votre film est présenté à la caserne des réalisateurs. Trois souvenirs de ma jeunesse. On dirait que vous l'avez fait exprès, Arnaud Desplechin, pour cette journée aujourd'hui spéciale culture nouvelle génération. Écoutez le printemps, le premier volet d'une série sur France Culture. D'ailleurs, des jeunes, s'il y en aura, tout à l'heure, on va dire qu'on connaît encore un petit peu, nous tout de même. Enfin, oui. Il n'y aura plus de jeunes que nous tout à l'heure dans les matins avec les jeunes pousses du cinéma, certains, Bénédicte Couvreur, productrice de cinéma, ou encore Élie Vachman, et ainsi que six étudiants, membres du jury du prix France Culture Cinéma, qui, avec notre directeur Olivier Provost-Darvor, donneront notre palmarès qui sera remis demain au Palais des Festivals. Dites, vous êtes un vieil habitué de Cannes, cela dit, ça vous fait peur ou plus du tout?
Si, non, ça c'est impressionnant quand même. À chaque fois, c'est une arène, donc à chaque fois qu'on est projeté dans l'arène, c'est pour un réalisateur français, c'est toujours une arène. J'ai l'impression qu'on est plus protégé quand on a un réalisateur étranger à Cannes. Et par contre, à chaque fois, c'est ce qui m'émeut déjà pour la projection de ce soir, c'est l'accueil des acteurs. C'est ça qui est très particulier.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une arène dans laquelle vous êtes né au fond?
Oui, c'est quelque chose que j'ai réalisé tard si vous voulez, le premier film que j'avais fait était montré à la semaine de la critique, ouais. C'était La vie des morts, ouais. Et je ne pouvais pas y être parce que j'étais en tournage de La Sentinelle, et Gilles Jacob avait eu la gentillesse d'inviter La Sentinelle, qui était donc mon premier long métrage en officiel. Alors c'était tout à fait impressionnant, mais j'ai réalisé plus tard à quel point Gilles Jacob avait changé ma vie.
Et qu'il publie d'ailleurs, Gilles Jacob, il faut le préciser ces jours-ci, un roman, hein, Le Festival n'aura pas lieu, chez Grasset, qui raconte le reportage à moitié imaginaire, hein, sur le tournage de Mongambo, avec des déclarations d'amour évidemment à Ava Gardner. Dites, comme on n'a pas l'habitude de mentir au matin, moi je n'ai pas réussi à voir votre film en avant-première, les horaires des matins étant compliqués avec la projection que vous avez gentiment organisée pour nous la semaine dernière, mais l'italienne des matins, la productrice adjointe des matins, Francesca Fossati, il n'était pas question évidemment que personne n'ait vu le film à cette table autour de vous, y était. Bonjour Francesca Fossati.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Inutile de dire que quand on vous a proposé d'aller voir Trois souvenirs de ma jeunesse,
j'ai pas hésité.
Vous êtes allé en courant.
Il s'agit du 8e long métrage d'Arnaud Desplechin, présenté donc aujourd'hui à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs. Le personnage principal, cher à Arnaud Desplechin, s'appelle Paul Dédalus. Et oui, le même Paul interprété par Mathieu Amalric, que l'on avait laissé en 96, à la fin du film « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle ». Paul est désormais un anthropologue qui a passé une bonne partie de sa vie loin de chez lui et qui rentre en France où l'attend un poste au Quai d'Orsay. En arrivant à l'aéroport, Paul est bloqué par les douaniers à cause d'un petit mystère concernant son passeport. Un autre Paul Dédalus existerait sur Terre. Interrogé, Paul raconte un voyage scolaire qu'il avait fait à 16 ans en Russie. À cette époque, il avait laissé son passeport à un jeune juif qui voulait partir en Australie. Mystère résolu, la machine à souvenirs se déclenche. Paul nous fait plonger dans son enfance à Roubaix, dans la maison familiale avec son père, son frère, sa sœur, une mère hystérique qui mourra quelque temps après. On passe du film d'espionnage au film d'horreur avec un Paul Dédalus d'à peine 11 ans, un couteau à la main, qui essaye de faire partir sa mère prise d'une crise de folie. Mais assez rapidement, on retrouve le cinéma auquel Arnaud Desplechin nous a habitués. Le souvenir de l'histoire d'amour entre Paul et Esther. Lui, jeune étudiant parti à Paris pour poursuivre ses études d'anthropologie, elle, encore lycéenne à Roubaix, Paul, interprété par le jeune Quentin Dolmer, Esther, interprété par Lou Roy Le Colligny. Ces deux comédiens d'à peine 18 ans s'emparent à merveille des dialogues écrits à la virgule près par Arnaud Desplechin. Ils s'écrivent des lettres qui interrogent la vie, qui interrogent leur amour, leur avenir. On y voit la liberté, l'insouciance, le mélange du trivial et du savant à la fois. On pourrait reprocher à Arnaud Desplechin d'avoir fait une fois de plus un film où il questionne trop sa vie. Mais on le sent si serein, si apaisé. Il nous emporte avec lui en filmant avec élégance et enthousiasme une jeunesse heureuse, une jeunesse qu'il a toujours aimée. Ce film est certes la préquelle, c'est-à-dire une partie de l'histoire qui nous manquait d'un film qui a maintenant 20 ans, mais il est aussi le film d'un cinéaste qui a peut-être retrouvé aujourd'hui sa maturité à travers une nostalgie qui nous touche et qui nous rapproche de nos paradis perdus à nous.
Merci.
À Apaisé.
Apaisé. Ce film-là est assez apaisé. Oui, il est très le premier adjectif qui me viendrait, il est lumineux. Il y a un truc très lumineux. Ça m'a pris par surprise. Ces jeunes gens m'ont pris par surprise.
Paradis perdu, je crois qu'il y avait un titre de travail à ce film, mais c'est pas la première fois.
Nos Arcadies.
Nos Arcadies.
Ouais. Est-ce que, l'enfance des Grecs, l'Éden, ce qui est perdu, et en même temps ce qui est aride. Moi, j'ai un petit livre qui m'avait été offert par Emmanuel Bourdieu avec des paysages d'Arcadie, publié chez Gallimard, un livre de 1930 ou un truc comme ça. Et alors l'Arcadie, c'était affreux, quoi. Quand on regarde, c'était très gris, c'était très austère, c'était en Macédoine. Et du coup, moi, d'aller tourner cette jeunesse un peu violente que le héros traverse dans des paysages un peu brutaux, qui sont les paysages de Roubaix, mais de transformer ça en enchantement, c'était un peu le pari du film.
Quel était le souci avec mon passeport ?
Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus.
Alors, qui es-tu ?
Je ne sais plus.
Je me souviens.
Qu'est-ce que tu fais à Paris ?
Je cultive mon mystère.
Mystérieux, tu parles. Tu veux t'inscrire sur la liste d'attente ?
Tu t'appelles Esther et t'es dans la classe de ma sœur. Paul, j'arrête pas de te manger des yeux.
Je fais toujours cet effet-là.
Pourquoi ?
Parce que je suis exceptionnelle.
C'est qui son type ?
Paradis perdu, Arcadie, Arnaud Desplechin, qu'est-ce qui fait que vous êtes sur ce penchant de voir, avec peut-être qui sait nostalgie, mais tout de même bonheur et lumière, la jeunesse passée. Souvenez-vous de cette phrase de Paul Nizan qui démarre à Dan Arabi, qui lui dit « J'avais 20 ans et je ne dirai jamais que j'ai le plus bel âge de... c'est le plus bel âge de la vie.
Ouais. Mais c'est...
Ça a été le plus bel âge de la vie, les 15, 16, 17, 20 ans?
Je ne sais pas. J'aime à me souvenir. Je savais que c'était le thème de la journée, la jeunesse sur France Culture. J'aime à me souvenir d'une phrase que me citait un ami, Roger Bobo, qui était le scénariste de Rois et Reines. Et alors je lui parlais il y a déjà longtemps de ce projet de teens movie que j'avais, de faire un film avec des très jeunes acteurs. Et alors il me citait un camarade à lui quand ils avaient 15 ans et ils se regardaient très sérieusement une après-midi dans leur chambre. Et son camarade se retourne vers lui et lui dit, tu sais quand même l'année dernière, je crois qu'on a vécu la meilleure année de notre vie. Et si vous voulez, il avait 15 ans. Alors cette déploration d'une jeunesse enfuie, pour moi, ce serait la définition de la jeunesse elle-même. Vous voyez, j'ai l'impression à 14 ans, on se dit, ah là, c'était quand même vachement mieux quand on était vraiment jeune, quoi, 12 ans ou 11 ans. Il y a tout le temps cette déploration de...
Mais faire quoi alors de cette déploration, le fait Emerson, que vous aimez lire et interpréter par Stanley Cavell, faire de cette déploration tout de même un moment heureux?
Oui, de transformer cette déploration en triomphe.
Mais
en élégie.
Quand la tristesse est là.
C'est pas la tristesse que les choses se soient enfuies et pour le transformer, on lit Emerson, non? Ça me semble un mouvement naturel. Ça me semble aussi le mouvement qui est le mouvement du cinéma lui-même, cette déploration. Le cinéma est un art trop jeune. Et c'est ça donc un art canaille, un art populaire, un art forain, et c'est toujours ça qui me séduit. Et j'aime à penser.
Il est toujours.
Ah, bien sûr. Mais toujours avec ce mouvement de déploration. Quand le cinéma est devenu sonore, tout le monde disait ça y est, c'est foutu, quoi. Et évidemment que c'est merveilleux que le cinéma soit devenu sonore. J'aime toujours à penser à Bergman qui disait non, mais ce que moi je fais, c'est pas sérieux parce que la charrette fantôme de ce Ström, ça quand même, c'était du cinéma. Et alors après ça, on a eu Woody Allen qui disait non, mais ce que je fais, moi, c'est des blagues. On part à Bergman, c'est vraiment rien du tout. Donc on est tout le temps.
Et voilà. Alors vous dites quoi, c'est des blagues? Par rapport à qui?
Par rapport à Woody Allen. Vous voyez, je m'inscris dans la suite, je me dis, non mais quand même, Woody Allen dans les années 80, ça c'était sérieux, quoi. Et alors évidemment, c'est moins bien. C'est ce mot de se réjouir de ça, de savoir que c'est une illusion. Vous voyez, puis c'est la jeunesse du cinéma elle-même, ou là, dans le cadre de ce film, la jeunesse des acteurs elle-même, qui apporte cette joie et cette lumière. Si vous voulez, on déplore et en même temps on travaille avec cet outil qui est trop jeune encore, même s'il est devenu numérique, et donc ça provoque une joie, une élégie.
Et puis la jeunesse, évidemment, elle, pour employer un lieu commun, elle est insolente, mais enfin c'est vraiment vrai. Quand vous avez dit hier à vos jeunes comédiens, tiens, demain je vais parler du film, et c'est à l'occasion d'une journée sur la jeunesse sur France Culture, vous m'avez dit, ils en rient comme des hyènes.
Oui, bien sûr. Oui.
Les jeunes, ils s'en foutent de la jeunesse.
Ben bien sûr, ils disent c'est un thème de vieux. Oui, alors je leur demandais, parce que je détesterais parler à leur place, alors il faut que je parle à ma place, de la même manière que sur le plateau, je ne pourrais pas singer la jeunesse ou singer une attitude. Donc je leur disais, mais qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire de votre part? Alors ils m'ont renvoyé sur les roses, c'était très heureux.
Alors la jeunesse, il a été beaucoup question ici au Festival de Cannes. On se souvient de quelqu'un auquel on vous compare souvent, à qui on vous compare souvent, André Desplechin, François Truffaut notamment, et les 400 coups.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, ils
Je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère?
Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils n'ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle ne pouvait plus me garder. Alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans tout. Et puis je me suis aperçue que ma mère, elle ne m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, les petites affaires insignifiantes. Alors aussi, genre, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu quand elle m'avait eu chimère, quoi. Et puis avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère.
Alors voilà, bien sûr, toujours évidemment inépuisable, hein, cette voix blanche du petit Léo dans les 400 coups de Truffaut. Truffaut, Arnaud Desplechin, dites, vous n'en avez pas un peu marre au fond qu'on dise « Ah oui, avec Arnaud Desplechin, on tient le nouveau François Truffaut ». Est-ce qu'il fallait quand même creuser des fois davantage quand vous avez dit au fond que vous avez fait un film avec des jeunes, vous avez parlé avec une expression anglo-saxonne des « teen movies » et on sait qu'il y a une tradition littéraire et cinématographique américaine de ce qu'on appelle le « young adult », notamment. Ben notamment, tenez, regardez, écoutez bien, ça pourrait être une bande son de chez vous, allez-vous la reconnaître, ceci.
Nothing gold can stay. Huh? Nature's first green is gold. Her hardness hue to hold. Her early leaves a flower.
Oui, c'était un film qui m'a...
Outsider, Coppola.
Outsider de Coppola. Et
un poème de Robert Frost. Oui. Rien ne reste de l'or à jamais. Et l'Éden en chagrin se recueille, ainsi l'aube disparaît. Rien ne reste de l'or à jamais.
Oui, avec la chanson de Stevie Wonder, Stay Gold, je crois que c'était Carmine Coppola qui l'avait arrangé. Et oui, c'est un film magnifique. C'était un film qui m'avait touché beaucoup quand il était sorti. J'étais encore jeune homme. Et alors, je me souviens, le Serge Danet aimait beaucoup Rumblefish, qui était un film en noir et blanc. C'était deux films que Coppola avait tourné à Tulsa avec des très jeunes acteurs. Et alors, il y en avait un qui était noble, c'était Rumblefish, et l'autre qui était populaire, c'était Outsider. Et moi, évidemment, celui que j'adorais, c'était Outsider. Rumblefish, c'était beaucoup trop européen à mon goût, et c'était pas mon truc. Je préférais, il y avait une sauvagerie dans Outsider, et la façon dont les jeunes gens rejettent les personnages adultes hors du film, il y avait quelque chose qui de fiévreux, et j'ai revu le film avec beaucoup de fascination. C'était vraiment, ça m'a guidé pendant toute l'écriture des Trois Souvenirs.
Et ce cinéaste très français, quand on parle de vous, Arnaud Desplechin, on se trompe un peu, non? Il faut aller chercher. Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, dans ce cinéma américain que vous aimez beaucoup, ces bizarreries. C'est pas du genre à la française, Desplechin, c'est du genre à l'anglaise, à l'anglo-saxonne, on va dire.
J'ai été souvent amené, puis voyant en montrant mes films à l'étranger, etc., à me demander ce qui faisait de moi un cinéaste français. Et je pense qu'il y a une façon très... Il y a un trait très français, une couleur française dans l'amour de l'Amérique. Je pense, et c'est ce qui fait de moi français. Pour le reste, je me vis plutôt comme cosmopolite. Mais ça, cette passion américaine et cette passion pour des objets humbles de la culture américaine, comme par exemple Outsider plutôt que Rumblefish, c'est ça qui est un trait très français, cette forme de cinéphilie. C'est pas quelque chose d'italien ou de belge ou d'anglais. Non, c'est vraiment très français. Cette passion, est ce que je trouve dans ces films, l'enfance de l'art, cet Éden, justement, cette Arcadie, d'un moment où un cinéma industriel peut proposer des formes artistiques, ce mélange de d'art forain et d'art savant, c'est quelque chose, oui, qui me fascine. Alors Outsider, c'était il y a longtemps, mais je pense à des merveilleux films, je pense à Days and Confused de Linklater, je peux penser à Superbad de Greg Mottola, qui est un film qui est déchirant et qui est très drôle, hein, c'est produit par Judah Pato, qui est battant. Je pensais beaucoup à Almost Famous, qui est le film de Cameron Crowe, qui est sur un très jeune garçon, très sérieux, trop sérieux. Il a 15 ans, il veut devenir critique de rock. Il veut pas du tout devenir rocker, il veut devenir critique de rock. Ça me plaisait beaucoup de voir l'enfance de ce jeune personnage.
Francesca Fossati.
Américain, mais un peu français quand même. Vous filmez Roubaix qui devient à chaque fois, dans chacun de votre film, votre Hollywood à vous.
Ça devient comme une ville studio, oui. Mais j'aime bien aller tourner là-bas. C'est assez déshérité.
C'est là où vous êtes né.
Oui, c'est là où je suis né.
Est-ce que ça veut dire qu'avec le cinéma, il faut toujours retourner sur ses pas?
Ben, ça m'oblige à une certaine humilité. Vous voyez, comme je me souviens dans un film de Sacha Guitry, il est très méchant avec sa secrétaire, il se dispute et il lui dit si vous continuez comme ça, je vais vous envoyer à Roubaix. Donc ça, c'est un film d'avant-guerre. Vous voyez, c'est la ville maudite, quoi. C'est les confins de la France. Alors du coup, de retourner dans ce terrain humble comme ça, d'où je suis issu, ça me plaît comme premier geste de sincérité vis-à-vis de moi-même. Je me souviens sur le pont de Noël, j'aimais bien. On avait inscrit sur le carton de générique, ça s'appelait un conte de Noël, Roubaix, point d'exclamation. Alors c'est ce côté altier comme ça et humble en même temps me plaisait.
Vous vous souvenez, vous, du moment à Roubaix où vous vous êtes dit « je ferai du cinéma » ?
Et c'est difficile parce que j'ai vraiment du mal à m'en souvenir. J'ai un souvenir précis qui était je pense que c'était en CM1. On m'avait demandé ce que je voulais faire. J'étais très fier parce que j'avais écrit IDEC et je n'avais pas oublié le H. C'était le nom de l'école nationale de cinéma qui aujourd'hui s'appelle la FEMIS. Alors je savais pas si on devait dire réalisateur, metteur en scène, directeur. Je voyais parfois directed by. Alors je me disais peut-être c'est directeur, producer. Je savais pas comment est-ce qu'on appelait ça. Et alors du coup, j'ai demandé à mes parents qui m'avaient dit, il y a une école pour ça, c'est l'IDEC. Alors du coup, voilà, je sais qu'à 8 ans, l'affaire était cuite, quoi. Je savais qu'il fallait que j'aille là-bas pour faire ça. Donc c'est pas un truc raisonnable. Vous voyez, c'était beaucoup plus. Je ne sais pas ce qui m'a plongé dedans. Je me souviens de la première projection d'un film où j'étais avec ma grand-mère que j'ai vu en salle. J'ai bien sûr vu des films à la télévision et je regardais le projecteur et ma grand-mère me tapait sur l'épaule en me disant non, c'est de l'autre côté qu'il faut regarder et voir un film. Ma foi, j'en avais déjà vu à la télévision. Je trouvais pas ça épatant, mais regardez le projecteur, vous voyez la machine, ouais, qui scintillait,
la poussière qui scintille dans le faisceau. Écoutez donc ce que disait en 1992 à Régis Debray sur cette question de ce qu'on sait d'une vocation, ce que disait Serge Danet avec notamment la caméra de Pierre-André Boutan.
C'est l'enfance le cinéma, c'est pas l'adolescence. Le cinéma c'est l'enfance, c'est-à-dire c'est un sentiment beaucoup plus intense et beaucoup plus insouciant et beaucoup plus grave de ne pas faire partie du monde. Ou d'être toléré par extrême justesse dans le monde tel qu'il est, et on sait à l'âge de 5 ans, enfin c'est comme quand Duras citait Queneau qui disait un écrivain il sait qu'il l'est à 7 ans, s'il n'a pas écrit à 7 ans c'est pas la peine qu'il insiste, c'est excessif mais c'est vrai, ça veut dire que on sait dès la première entrée en cours de récréation, la première année d'école primaire, qu'il y a des gens avec qui on sera pas copains et qu'on va faire une bande à 3-4 dans un coin et ce sera les introvertis et peut-être plus tard les homosexuels, c'était le cas pour moi. En tout cas, les cinéphiles, évidemment, ils vont pas partager leur trésor. Ils savent qu'ils appartiennent à une autre version du monde ou de l'espèce humaine. C'est pas fuir. Moi, j'ai jamais fui, j'ai aucune imagination. Donc, les gens qui fuyaient, adolescents, gamins, il y a plein de façons de fuir. Dans le fantastique, dans la science-fiction, dans un monde mieux, les utopies politiques ou religieuses. Moi, ça ne m'a jamais intéressé parce que j'ai aucune imagination. Je trouve toujours le monde tel qu'il est formidable. Et je trouve formidable qu'on m'ait laissé l'habiter, finalement. Et plutôt, sans que j'y perde trop de plumes, parce que j'ai à peu près fait ce que j'ai voulu. Mais c'était l'idée, non, on aura ce monde-là, mais on l'habitera enfin. Voilà, moi, l'essence de ma cinéphilie, on l'habitera enfin. Mais ce sera le monde, ce ne sera jamais la société. De la société, il n'y a que des choses horribles à attendre.
Ça me bouleverse, cette voix et cette description qui fait de l'enfance d'un cinéphile, de ce refus de la société, de cette acceptation du monde. Je m'identifie, ça me fait vibrer complètement.
Presque reprendre mot pour mot.
Vraiment, c'est une émission que je connais bien. C'est vraiment cette position, cette cour de récréation qu'il décrit où y en a certains qui aiment le monde, alors ceux-là qui aiment la société, alors ceux-là ils font du théâtre ou ils font du sport ou des choses comme ça. Et puis il y a les gens qui sont intéressés par le monde mais qui ont besoin d'être protégés dans une salle obscure pour y avoir accès. Et c'est cette position altière, comme ça, de refus de la société, quelque chose qui me bouleverse.
Merci Arnaud Desplechin d'avoir accepté notre invitation. Nous réfugierons dans les salles obscures dès ce mercredi, puisque votre film « Trois souvenirs de ma jeunesse » sort mercredi et qu'il sera présenté tout à l'heure à la quinzaine des réalisateurs. On va quand même citer le nom de vos jeunes hyènes, là, si elles écoutent, on leur mettra des claques si je les croise. Quentin Dolmer et Lou Roy Le Colinet. Et puis, il y a bien sûr le toujours fringant Mathieu Amalric, évidemment, dans votre film. Trois souvenirs de ma jeunesse, c'est tout à l'heure au Festival de Cannes et c'est mercredi dans toutes les salles. Merci Arnaud Desplechin. Très vite, Brice Couturier, de quoi nous parlerez-vous à 8h15 pour introduire et continuer de travailler sur cette journée printemps de France Culture, la jeunesse, premier volet, nouvelle génération?
Eh ben, je vais vous dire en un mot, comme ça va gagner du temps. Les frères Cohen, à tout à l'heure, Marc.